Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Semillas Latinas, une exploration mensuelle au cœur de l'histoire, des cultures et des luttes de l'Amérique latine.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h, sur le 93.9 FM.
Ce mois-ci, nous vous emmenons en Argentine. L'Argentine évoque des images bien connues, celles des vastes étendues de pampa où chevauchent fièrement les gauchos, des rues animées de Buenos Aires bercées par les mélodies envoûtantes du tango, ou encore les succès de ces légendes du football. Mais au-delà de ces clichés, l'Argentine est une nation profondément marquée par son passé et sa mémoire est à la fois un champ de bataille et une quête collective. L'un des épisodes les plus sombres de cette histoire est celui de la dictature militaire entre 76 et 83, au cours de laquelle des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées, torturées et portées disparues. Ces crimes d'État, considérés comme des crimes contre l'humanité, continuent d'hanter le pays. Les procès se poursuivent pour établir la vérité et rendre justice aux victimes, et les familles des disparus, incarnées par les mères et les grands-mères de la Place de Mai, qui manifestent chaque semaine depuis des décennies sur cette célèbre place de Buenos Aires qui donne sur le palais présidentiel, ou Casa Rosada, luttent inlassablement pour retrouver la vérité et obtenir la justice. Ces revendications se heurtent cependant à des tentatives de minimisation et de négation de l'histoire. Et c'est dans ce contexte de mémoire complexe qu'intervient l'élection de Javier Milei, il y a déjà un an, à la tête de l'exécutif. Figure controversée, Milei revendique un discours de rupture radicale avec le passé, et pour certains, il incarne une promesse de renouveau dans un pays marqué par des décennies de crise. Mais son rejet des politiques de mémoire et des droits de l'homme menace surtout de rouvrir des blessures qui n'ont jamais totalement guéri, et son début de mandat est notamment marqué par la suppression de ministères et d'institutions de protection des droits humains. Concernant la mémoire, il a publiquement remis en cause le nombre de disparus lors de la dictature et il a minimisé les crimes d'État de façon générale. Les un an de la présidence de Milei sont donc l'occasion de faire le point sur les défis posés par les révisions historiques en Argentine. Dans cet épisode de Semillas Latinas, nous vous proposons donc d'explorer les différentes mémoires qui traversent et qui façonnent l'Argentine contemporaine en explorant ses récits culturels, historiques et politiques, mais aussi les façons de lutter et de se réapproprier des mythes puissants. Dans l'heure à venir, nous plongerons directement dans les enjeux de mémoire de la dictature avec un reportage saisissant de Sylvie et Anaël au cœur d'un ancien centre de détention clandestin à Buenos Aires. Nous poursuivrons l'aventure avec nos deux chroniqueuses qui sont parties à la rencontre du collectif Argentina en Lucha à Paris pour découvrir le militantisme qui se déploie de l'autre côté de l'Atlantique. Dans une deuxième partie d'émission plus culturelle et artistique, nous rejoindrons Manon pour découvrir un livre qui déconstruit le mythe du caoutchouc en nous embarquant dans une odyssée queer et fantasque. L'incroyable duo de Pauline et Michael prendra ensuite le micro pour nous raconter et nous danser le tango dans une chronique théâtrale. Et enfin, Anaël clôturera cette émission avec une chronique fascinante sur Thomas Saraceno, un artiste qui tisse des toiles entre l'art, l'écologie et les araignées. Préparez-vous un voyage au cœur de l'Argentine en pleine redéfinition, entre quête de vérité et incertitude politique. Bonne écoute sur Radio Campus Paris. Tout de suite, nous écoutons le reportage de Sylvie et Anaël dans un lieu bien particulier de Buenos Aires, l'ex-ESMA.
Dans l'espace public argentin, les marques de la mémoire fleurissent et permettent d'interpréter de différentes manières un passé récent. Entre 1976 et 1983, à Séville en Argentine, une dictature militaire qui a exercé une répression systématique et illégale. Le terrorisme d'État s'est traduit par la disparition des personnes, l'emprisonnement, la torture, le viol et le rapt de nouveau-nés. Plus de 30 000 personnes ont disparu. Ce système répressif clandestin a agi à travers la mise en place de plus de 350 centres de détention clandestins. En parallèle, des milliers de citoyens et citoyennes furent condamnés à l'exil.
Le coup d'État du 24 mars 1976, perpétré par les forces armées, fut facilité par le déclenchement de l'opération Condor, un plan transnational de coopération entre les dictatures du cône sud, avec le soutien tacite des États-Unis, pour lutter contre l'opposition armée et non armée, marxiste et de gauche, et contre un grand nombre d'associations politiques et sociales progressistes.
Avec le retour de la démocratie, le 30 octobre 1983, des mémoires hétéroclites gagnent en visibilité, relatant un passé d'une violence inouïe marquée par les violations de droits humains massives exercées par la junte militaire au pouvoir. Alors que les processus de justice et de vérité faisaient face à de nombreux obstacles, la préservation de la mémoire comme acte politique fut une constante de la part des familles de disparus, et ce, depuis les premiers temps de la dictature. Un exemple emblématique est celui du collectif des mères et grand-mères de la place de Mai, créé en 1977, qui a mené une lutte sans relâche pour retrouver et rendre à leurs familles les enfants et bébés volés lors de la dictature militaire.
Une loi de 2002 institue le 24 mars comme journée nationale de la mémoire pour la vérité et la justice, en souvenir de celles et ceux qui furent victimes du processus engagé en ce jour de l'année 1976. La ténacité des familles de disparus est aussi notoire que leur devise « non camas », « plus jamais cela ». Et ces familles ont légué aux générations futures la consigne de toujours se battre pour la mémoire, la vérité et la justice. En Argentine, le 24 mars 2004 a marqué le début d'une nouvelle politique mémorielle. Le président d'alors, Néstor Kirchner, a ordonné au chef d'état-major de l'armée de retirer les portraits des anciens dictateurs Jorge Rafael Videla et Reinaldo Bignone. Ce même jour, l'ESMA, ancien centre clandestin de détention, est reconnu comme espace pour la mémoire et la promotion des droits humains. Progressivement, sur le territoire argentin, les anciens lieux de la répression sont convertis en lieux de mémoire. Ces centres clandestins avaient été, dans leur grande majorité, installés dans les locaux des forces armées et de la police, mais également dans des maisons privées, des usines, des hôpitaux et des écoles, pour citer quelques exemples, ce qui révèle le rôle joué dans la répression illégale par la société civile et par les entreprises.
Aujourd'hui, on recense sur le territoire argentin 800 sites mémoriels. L'un des plus poignants est le musée et lieu de mémoire de l'ESMA, ancien centre clandestin de détention, de torture et d'extermination, situé sur le terrain de ce qui était autrefois l'école de mécanique de la marine dans la ville de Buenos Aires en Argentine. Inauguré en 2015, le musée et lieu de mémoire de l'ESMA est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cet établissement, des officiers et des subordonnés de la marine argentine ont enlevé, torturé et assassiné plus de 5000 personnes. La mission du musée est d'informer le public sur les actes qui se sont déroulés dans le centre clandestin. Juan Burstein, historien et coordinateur du service des visites guidées, raconte plus en détail l'histoire de cette institution et le parcours de la mémoire proposé au public de l'ESMA.
L'ESMA était une école de mécanique de la marine dont les élèves vivaient en internat. Pendant la dictature, l'activité éducative n'a pas été suspendue. En fait, l'activité éducative et l'activité répressive se déroulaient parallèlement. Ce qui s'est passé, c'est que tous les locaux et toutes les ressources humaines de cette école ont été mis à la disposition de la répression. Par conséquent, ce qu'on cherche à faire comprendre dans cet espace de mémoire, c'est précisément la manière dont ces ressources ont été utilisées pour enlever, torturer et faire disparaître les individus. Nos guides font visiter les 17 hectares du site et expliquent la fonction de certains bâtiments, tels que les ateliers automobiles où étaient conditionnées les voitures qui devaient être utilisées dans les opérations de séquestration, ou encore les locaux où étaient falsifiés les documents utilisés par les officiers pour différents usages. Ou encore l'infirmerie ou le service de santé de ce lieu dont les ressources humaines, c'est-à-dire les médecins qui y travaillaient, ont également contribué à la répression de différentes façons. En ce sens, la visite consiste à parcourir les rues du site et se termine par l'actuel musée de la mémoire, l'ancien casino des officiers, qui encore avant était la maison des plus hauts gradés. C'est aussi le bâtiment où la grande majorité des personnes détenues, disparues et enlevées, ont été emmenées. On estime à environ 5000 le nombre de personnes qui sont passées par cet endroit, parmi lesquelles 200 à 250 ont survécu et témoigné devant la justice.
Depuis 1998, le bâtiment est protégé en qualité de preuve judiciaire, en raison des crimes contre l'humanité qui y ont été commis. Le parcours du musée est donc basé sur les témoignages des survivants et des survivantes, exprimés lors du procès des juntes militaires de 1985 et lors des procès pour crimes contre l'humanité relancés depuis 2024. Les crimes commis dans le centre clandestin de l'ESMA ont été jugés. De 2003 à 2023, 5 procès pour crimes contre l'humanité, connus sous le nom de Mega Causa ESMA, le méga procès ESMA, ont donné lieu à 60 condamnations et à 6 acquittements. Juan Burstein explique au micro de Semillas Latinas la spécificité du méga procès ESMA.
Le procès ESMA s'est déroulé en plusieurs étapes, la plus importante étant l'étape numéro 3. Les procès de l'ESMA ont commencé il y a près de 20 ans et se poursuivent. Le procès 3 a jugé plus de 50 militaires, dont la grande majorité a été condamnée. La septième étape du méga-procès de l'ESMA est exclusivement dédiée, pour la première fois, au jugement des crimes sexuels, soit des viols commis dans le centre clandestin.
Aujourd'hui, les procès pour juger les crimes commis dans le centre clandestin de l'ESMA se poursuivent. Des condamnations ont été prononcées tout récemment. Claudia Lencina, avocate et directrice des affaires juridiques au Secrétariat national des droits humains, qui travaille depuis 2008 sur les procès pour crimes contre l'humanité, a répondu à nos questions.
Hier, le 9 décembre 2024, le tribunal pénal oral numéro 5 de la ville autonome de Buenos Aires a condamné à réclusion à perpétuité Horacio Luis Ferrari, alias Pantera, officier retraité de la marine argentine qui a été déclaré coupable d'être le co-auteur de crimes de privation illégale de liberté, de torture aggravée, de meurtre aggravé et d'enlèvement, de rétention et de dissimulation de personnes âgées de moins de 10 ans et d'avoir participé aux crimes de viol aggravé, crimes qualifiés de crimes contre l'humanité et commis à l'encontre de 240 victimes.
Par ailleurs, la prescription, c'est-à-dire la durée au-delà de laquelle une action en justice civile ou pénale n'est plus recevable, ne s'applique pas aux crimes contre l'humanité.
Tous ces crimes peuvent être poursuivis parce qu'ils ont été considérés comme des crimes contre l'humanité. Cela signifie qu'ils sont imprescriptibles et peuvent donc être poursuivis même si beaucoup de temps s'est écoulé depuis qu'ils ont été commis. En Argentine, ils sont jugés sur la base du code pénal en vigueur. Il s'agit donc de crimes qui existent dans le code pénal. La qualification de crimes contre l'humanité découle du fait qu'il s'agit de crimes si graves et si atroces qu'ils sont considérés comme ayant été commis contre l'humanité tout entière. La dictature militaire détenait tous les pouvoirs étatiques et a choisi de commettre ces crimes. Ces crimes étaient tellement aberrants qu'ils sont considérés comme des crimes contre l'humanité et c'est ce qui nous permet de juger les auteurs aujourd'hui.
Autrefois lieu stratégique de la politique de répression de la dictature militaire argentine, l'ESMA, devenu lieu de mémoire et musée, concentre particulièrement ses efforts sur l'action pédagogique. La transmission des savoirs et de la mémoire sont la mission essentielle de cette institution qui sensibilise son public à l'histoire nationale et à la défense des droits humains en général. Des activités éducatives, culturelles et de recherche y sont menées, en parallèle de visites dont la conception même témoigne d'un travail important sur la pédagogie de la mémoire. C'est pourquoi le musée de l'ESMA accueille un grand nombre d'établissements scolaires, comme le souligne Juan Burstein, historien et coordinateur du service des visites guidées.
La majeure partie del público corresponde a alumnos y alumnas de escuelas secundarias de educación media.
Le public de l'ESMA se compose pour l'essentiel d'élèves de l'enseignement secondaire de l'Argentine, en particulier de la capitale fédérale et de la province de Buenos Aires, pour des raisons de proximité. Il et elle viennent nous rendre visite dans le cadre de voyages d'études ou viennent de façon autonome pour visiter cet endroit, de nombreuses régions du pays, de Tucumán, d'Entre Ríos, de province du Sud, entre autres. Nous recevons plus ou moins 150 établissements scolaires par an et environ 25 000 personnes effectuent la visite annuellement. Outre les élèves de l'enseignement secondaire, nous recevons également la visite d'étudiants et étudiantes universitaires ou encore de branches professionnelles, de syndicats et de différents groupes politiques dont le militantisme les conduit à venir visiter le lieu. De nombreux étudiants et étudiantes d'universités étrangères viennent aussi, et des diplomates de différents pays du monde.
Les frontières de la mémoire s'élargissent désormais pour rendre visibles de nouvelles luttes. Dans l'espace public argentin, les foulards blancs des mères et grand-mères de la place de Mai se mélangent aux foulards verts de la lutte pour la dépénalisation de l'avortement portée par la marée verte féministe.
Merci beaucoup Sylvie et Anaëlle pour ce reportage. Chers auditeurs qui nous écoutez, si vous souhaitez en apprendre davantage, je ne peux que vous recommander de voir le film Argentine 1985, un film réalisé par Santiago Mitre qui porte sur le procès des chefs de la dictature militaire. On reprend juste après une pause musicale. Tout de suite, on écoute une voix incontournable de la musique argentine. C'est Mercedes Sosa avec son titre Alfonsina y el Mar.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral,
y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Vous êtes toujours sur le 93.9, c'était Alfonsina y el mar. Et tout de suite, on retrouve Anaëlle et Sylvie pour un reportage sur le collectif Argentina en Lucha Paris.
Avec Sylvie, on s'est rendu à l'apéro politique organisé par le collectif Argentina en Lucha Paris, collectif créé il y a un an par un groupe d'amis qui s'insurgeait contre l'élection de l'ultralibéral et anarcho-capitaliste Javier Milei lors de l'élection présidentielle argentine de novembre 2023. Le collectif est composé de personnes installées en France, le plus souvent originaires d'Argentine, et opposées non seulement à Milei, mais aussi plus largement à la poussée de l'extrême droite dans le monde, avec une attention particulière portée à la situation française.
Jeudi 5 décembre 2024, il est bientôt 19h. On voit se remplir progressivement la salle du CICP, le Centre international de culture populaire, situé dans le 11e arrondissement de Paris, où se déroule l'apéro militant du collectif Argentina Lucha Paris. Chacun et chacune amène de quoi boire et grignoter. Sur fond de cumbia, les membres du collectif se retrouvent et échangent autour d'un verre, tandis que certains rient, d'autres ont l'air graves et semblent plongés dans des débats politiques amers.
Assez vite, on nous invite à nous disposer en cercle. Se rassembler est un acte politique en soi. Un geste qui va à l'encontre de la logique individualiste promue par le gouvernement de Milei, nous explique l'une des membres du collectivo. Cette assemblée participative et horizontale se veut un lieu d'échange sur la situation sociopolitique actuelle en Argentine un an après l'élection.
Tamara Yapura, cofondatrice du collectif, raconte au micro de Semillas Latinas qu'elle et ses camarades mènent, ici en France, des actions en soutien avec les mobilisations en Argentine. L'été dernier, une action symbolique en particulier a fait connaître le collectif Argentina Lucha Paris par-delà des frontières lors de la venue en France de Javier Milei pour assister à l'inauguration des Jeux Olympiques de Paris 2024. À cette occasion, les rues, maisons, monuments et commerces de la capitale française ont été placardés d'affiches arborant le slogan « Milei persona non grata ». Le collectif organise également des actions en lien avec la préservation de la mémoire historique.
Le 24 mars, on commémore la dictature civico-militaire et ecclésiastique en Argentine et on organise un festival où on a mangé du locro, un repas typique d'hiver là-bas. Un locro pour la mémoire, pour la vérité et la justice. Il y a eu de la musique, des déclarations, c'était très beau. Il y avait environ 150 participantes et participants.
Le 24 mars, journée de la mémoire pour la justice et la vérité, on rend hommage aux victimes de la dictature argentine. Aujourd'hui, se mobiliser semble être une évidence face au retour du négationnisme, c'est-à-dire du déni, malgré les preuves historiques, des crimes perpétrés durant la dictature. Au révisionnisme du président Javier Milei, qui remet en question le chiffre de 30 000 personnes assassinées par les forces de l'État,
se juxtapose l'apologie de la junte militaire, une opinion incarnée, par exemple, par sa vice-présidente Victoria Villarroel, qui va même jusqu'à se dire nostalgique de la dictature militaire. Comme l'explique Tamara Yapura.
Nous croyons qu'il y avait un certain consensus qui faisait que nous n'allions pas remettre en question le rôle qu'ont joué, par exemple, les militaires lors de la dernière dictature. Mais qui va remettre ça en question ? Nous sommes tous en faveur de la défense des droits humains et de la mémoire, la vérité, la justice. Nous sommes tous contre le génocide orchestré par l'État qui a tué toute une génération qui cherchait à transformer la réalité du pays. Et pourtant, nous nous retrouvons avec un secteur social et politique qui a maintenant une représentation, comme c'est le cas de Milei ou de sa vice-présidente, qui revendique la dictature. Et pour nous, c'est quelque chose d'inconcevable.
Le gouvernement actuel tente de mettre en échec le consensus construit au cours de ces 4 dernières décennies. Il nie les crimes contre l'humanité, combat les organisations de défense des droits humains et montre des signes d'empathie à l'égard des auteurs de crimes de la dictature. La révision de l'histoire n'est pas un sujet prioritaire pour Milei. Le président est obnubilé par les questions économiques d'une part et d'autre part par la mise en scène de soi comme figure de proue de l'extrême droite mondiale.
En revanche, sa vice-présidente, Villarroel, membre de l'aile dure du parti de Milei, la Libertad Avanza, est active depuis plus de 20 ans dans des organisations qui défendent l'action des militaires dans les années 1970 et 80. Elle a également participé aux manifestations réclamant la libération des tortionnaires. Par ailleurs, on voit ressurgir la théorie des deux démons. Selon celle-ci, face à la menace subversive incarnée à l'époque par les militants et militantes d'extrême gauche, à l'origine d'actions violentes, l'intervention des forces militaires aurait été justifiée, car seule l'armée pouvait remettre de l'ordre dans une société frappée par le chaos, comme l'explique Tamara Yapura.
Replacer les forces armées à la place qu'elles occupaient autrefois, à la manière dont elles avaient été conçues comme faisant partie d'un éventuel gouvernement, chercher à faire ça implique la théorie des deux démons, je dirais, qui consiste à dire qu'il y a eu des morts des deux côtés, ce que nous ne nions pas. Mais on ne peut pas comparer avec le génocide orchestré et instrumentalisé par l'État. Il cherche à dire aussi qu'en réalité, l'Argentine était un désastre et que nous avions besoin d'ordre. Ils disent que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, de remettre de l'ordre, mais qu'il y a eu des excès. Et lorsque nous parlons de viols, de tortures, d'assassinats, de disparitions, les vols de la mort, ce ne sont pas des excès, ce sont des décisions conscientes. Elle joue donc le rôle de vice-présidente et elle souhaite reconstruire le rôle, la légitimité et l'autorité des forces armées, des forces de sécurité. Ça se traduit donc notamment par la justification de la dictature et ça se reflète dans beaucoup d'actions et de déclarations, mais surtout dans le fait de rendre visite à des génocidaires.
Ces dernières semaines, une photo a choqué l'Argentine. Prise le 11 juillet dernier, on y voit 6 députés du parti La Libertad Avanza avec un groupe de tortionnaires dans la prison d'Ezeiza, dans la province de Buenos Aires. Tous sont en prison pour participation active à des crimes contre l'humanité. Sur l'image, on peut notamment voir Alfredo Astif, un protagoniste du terrorisme d'État.
Au cours de sa première année au pouvoir, Milei a pris 2 mesures considérées par les organisations de défense des droits humains comme des attaques contre les processus de vérité et de justice. Premièrement, le démantèlement de la Commission nationale pour le droit à l'identité, CONADI. Deuxièmement, le coup d'arrêt mis à la politique de recherche d'archives visant à contribuer aux enquêtes sur les crimes commis durant la dictature. La CONADI a été créée en 1992 à la demande des mères et des grands-mères de la place de Mai et elle était chargée des enquêtes sur les enfants disparus et volés pendant la dictature.
Ce courant révisionniste de l'histoire n'a jamais réellement disparu, bien qu'il ait perdu en crédibilité grâce à la lutte incessante des militants, militantes et organisations de défense des droits humains pour réclamer mémoire, vérité et justice, certains secteurs de la société argentine se disent encore nostalgiques de l'ordre imposé par le terrorisme d'État. Aujourd'hui, ces groupes bénéficient d'un soutien politique, comme l'affirme Tamara Yapura.
Historiquement, en Argentine, je crois qu'une partie de la population, à l'extrême droite, conservatrice, raciste, xénophobe, homophobe, tout ce que vous voulez, a soutenu la dernière dictature. Mais grâce à la vaste mobilisation populaire, à la revendication et à la lutte constante des grands-mères et des mères de la place de Mai, je pense que nous avons réussi à construire un consensus sur ce point, c'est-à-dire un accord plus majoritaire. mais ce secteur de la population n'a pas cessé d'exister. C'est juste qu'à cette époque, il était peut-être invisibilisé parce qu'il n'y avait pas de consensus social pour pouvoir exprimer librement ce genre d'idées.
Merci encore Sylvie Anaël pour cette enquête qui nous rappelle que les mémoires sont toujours menacées, mais aussi que la lutte pour les préserver est plus importante que jamais. Et un grand merci à Antonella Francini, Alice Marmont et à Michael d'avoir prêté leur voix au doublage de ce reportage. On retrouve maintenant Manon qui va nous parler du livre Las Aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Camara. Bonsoir Manon.
Bonsoir Paloma. Aujourd'hui, on part pour une traversée poétique de l'Argentine. On va aller se perdre dans la Pampa et embarquer à bord d'une roulotte où vous allez être installé plutôt très confortablement, mais genre confortable. Le genre de confortable où tu assistes en première loge à la naissance d'une histoire d'amour queer au 19e siècle, au milieu de la Pampa argentine, qui va littéralement braquer les codes de la littérature gauchoesque et des grands mythes fondateurs de cette nation. Je vous explique. Dans cette roulotte, il y a du thé anglais, de l'encens, de grandes couettes moelleuses, de la bière et autres alcools mystérieux, des livres, des objets improbables, des instruments de musique. Et il y a aussi deux meufs, China Iron et Liz. Et China Iron et Liz, c'est les deux meufs du roman Las Aventuras de la China Iron, ou Les Aventures de la China Iron en français, roman pour lequel l'autrice Gabriela Cabezón Camara a été finaliste du prestigieux International Booker Prize en 2020, puis du prix Médicis en 2021. Ce roman dont je vais vous parler aujourd'hui est le second de cette journaliste et autrice argentine oufissime, une militante féministe, écologiste et LGBT, qui a d'ailleurs notamment cofondé le mouvement Ni Una Menos. Ce livre, c'est l'histoire de la China, une adolescente indienne de 14 ans, mariée contre son gré à un gaucho brutal, qui, dès que son mari se retrouve recruté pour le service militaire, va se casser. Elle va sauter sur l'occasion du départ de Liz, une femme britannique assez envoûtante, qui part à la recherche de son mari gaucho gringo, lui aussi enrôlé au service militaire. Elle part donc à deux dans la roulotte de Liz, à travers l'immensité de la Pampa argentine, accompagnée d'un vieux gaucho doux et mélancolique qu'elles ont rencontré sur la route. Ce roman parle de l'amour qui se crée entre Yeltoust et de la liberté qui se prend et qui se vit petit à petit au fur et à mesure de l'épopée. D'épisodes rocambolesques et franchement hilarants en moments doux, philosophiques et sensuels, les personnes vont finir par trouver des manières de vivre autrement, libres et heureuses. Donc pourquoi lire ce livre? Parce qu'il vient détourner et réécrire une version féministe d'un des grands mythes fondateurs de la nation argentine, celui du gaucho Martín Fierro. Donc Martín Fierro, de base, c'est un poème épique populaire du 19e siècle écrit par José Hernández et considéré par les Argentins comme le grand livre national de l'Argentine. En gros, c'est l'histoire d'un gaucho qui est recruté pour aller combattre pendant 3 ans les troupes indigènes et quand il revient, sa famille a disparu et il passe le reste de sa vie à combattre les injustices. Bon, on y retrouve l'archétype du gaucho, symbole de courage, de liberté, de résistance au pouvoir aussi et grande figure emblématique de la campagne argentine, uruguayenne, brésilienne. Et Gabriela Cabezón Camara, qui explore dans tous ses livres plein d'utopies sociétales, elle est partie de cette épopée fondatrice et l'a complètement détournée par une écriture et un amour queer et féministe pour en faire un nouveau mythe fondateur de l'Argentine. Donc elle vient réinventer le western et la poésie gauchoesque pour faire entendre leur voix au corps et au récit féminin. On s'intéresse donc pour une fois à la meuf du gaucho, qui s'avère d'ailleurs cocher toutes les cases du gros masculin dans le roman. Donc on assiste plus particulièrement à la libération individuelle de China Iron, qui est épique. Au début, elle est réfugiée dans la petite charrette avec Liz, qui est comme une espèce de grotte remplie de trésors qui viennent du monde entier, grâce à Liz, dans laquelle China Iron, elle va s'y découvrir. Elle, l'amour, le sexe, la sensualité, mais aussi les histoires du monde moderne que Liz lui raconte au fur et à mesure. Et donc on va l'y suivre jusqu'à ce qu'elle sorte en fait de cette roulotte, comme on finit par sortir d'un nid, pour aller à la fin, bon ça vous verrez, vivre dans une communauté utopique où elle devient vraiment une badass girl hyper sereine et c'est trop beau. Ce livre, faut aussi le lire pour le cri de résistance qu'il représente, résistance qui passe par l'amour, par la sensualité, la fluidité des identités, contre le rationalisme, la modernité qui emprisonne les corps et insensibilise tout. Et en se déplaçant en roulotte, les héroïnes, elles résistent à la violence des fermiers britanniques et espagnols, à la colonisation, au capitalisme et à la solitude d'une société éclatée et raciste en créant des amours queer justement. Il faut les lire aussi pour sa polyphonie qui fait du bien. C'est une pluralité de points de vue, de récits, de langues, références culturelles, registres, styles qui se mêlent pour faire ressortir un truc hyper original qui est entre les codes du roman picaresque, épique, une odyssée quasi biblique et elle y ajoute tout un vocabulaire informel, populaire, contemporain et ça donne un truc complètement fantasque, hyper drôle et hyper évocateur. Et enfin, il faut le lire pour la sensualité et l'érotisme poétique énorme qui émane du livre, et notamment de Liz qui est genre juste méga renversante. Bref, c'est drôle, c'est subversif, c'est politique et c'est poétique. Ça vient bouleverser tous les mythes sexistes et violents sur lesquels les nations modernes se sont construites, notamment en jouant avec la figure du gaucho dans une perspective féminine et féministe, loin des clichés du gaucho, c'est-à-dire un campagnard argentin, bouffeur de viande et asocial. Bon. Dans tous les cas, les gauchos, maintenant, ils n'existent plus trop. Mais par contre, ce qui existe, ce sont toutes ces personnes et communautés en résistance, des gauchas et gauchas qui, contrairement aux stéréotypes gauchos, ne sont pas solitaires et trouvent de la joie collectivement dans les luttes. Et Gabriela Cabezón Camara, elle en fait un éloge, une exploration, une reconnaissance dans chacun de ses romans, que je vous recommande fortement, tels que Pleine de grâce ou encore les nouvelles Romances de la Noire Blonde et Tu as vu le visage de Dieu. Dans chacune de ces histoires, l'autrice, elle n'en cache pas la violence de la société argentine, dans tout ce qu'elle a de patriarcal, raciste, transphobe, sexiste, et j'en passe. Mais par contre, elle se donne justement pour faire de l'ance, en trouver des chemins de traverse et de sortie, et des possibilités de sérénité et des moments de grâce, qu'ils soient d'humour ou de, juste de beauté pure de l'écriture. Et voilà, c'était tout pour la chronique littéraire.
Merci Manon de nous avoir plongé dans ce roman. En tout cas, ça donne envie de le lire rapidement. Et maintenant, on vous propose d'écouter une chanson engagée, sortie juste après la chute de la dictature et qui dénonce les violences contre les civils lors de cette période. C'est « Nos siguen pegando abajo » de Charly García. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Tout de suite, on change d'univers musical pour suivre les pas de la fabuleuse histoire du tango avec Pauline et Michael sur le devant de la scène.
C'est una linda canción.
Vous parlez espagnol ?
Oui, je suis argentin.
Oh, le pays du tango. Vous dansez le tango ?
Bien sûr.
Pour nous, les Argentins, c'est notre culture, c'est notre ADN.
Et pourtant, c'est une musique qui n'a paru qu'à la fin du 19e siècle.
Ah, mais vous y connaissez, à ce que je vois.
Disons que j'ai quelques bases en danse et en histoire.
Ah bah parfait, venez, moi je veux voir ça. 1, 2, 3, 4. Appuie sur le premier et le troisième temps. Regarde, le pied en arrière. Oui, voilà, très bien, c'est comme ça. Sans écraser mon pied.
Ah oui, oups, je suis désolée. Vous dansez très bien.
Merci. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas dansé. C'est mon grand-père qui m'a enseigné quand j'étais petit.
Ah oui?
Oui, et lui-même le tenait de son père. Je vais vous raconter cette histoire. Aïe, aïe.
Oh, excusez-moi, je me suis trompée de pas. Je peux pas faire deux choses en même temps. Et si on arrêtait la danse un moment pour que vous me racontiez cette histoire? Ça m'intéresse.
C'est une histoire qui remonte à un peu plus d'un siècle. Mon arrière-grand-père est arrivé par bateau à Buenos Aires comme tant d'immigrants européens au 19e siècle.
Il venait d'où?
Il venait d'Espagne, de Galice. Comme vous le savez sûrement, tous ces immigrés ont amené avec eux leurs traditions musicales, le flamenco, le fandango, la guajira.
Ah oui, pour moi il s'agit avant tout du style de l'Argentine. Plus que le style, le tango c'est le genre musical, mais aussi la fameuse danse, qui serait apparue pendant la deuxième moitié du 19e siècle, à Buenos Aires.
C'est tout à fait ça. Mais le tango a des racines très plurielles, c'est un mélange entre latino-américaine, rythmique africaine et danse européenne. Le tango s'inspire de la habanera cubaine, mais aussi le candombe africain. D'ailleurs, saviez-vous que le mot tango signifiait le bruit d'une percussion africaine?
Non, je savais pas. J'ai appris récemment qu'à l'époque où le tango émerge, dans les rues de la capitale, il y avait autant d'habitants immigrés d'Europe que d'Argentins.
C'est exact. À la fin du 19e, mon grand-père, comme ces Européens venus en plein boom du développement de l'Argentine, vivait dans les conventillos.
Les quoi?
Les conventillos. Ce sont les quartiers populaires de Buenos Aires. C'est là où le tango, au départ dansé notamment par les bandits de ces quartiers, se développe et finira même par s'exporter plus tard dans le monde entier.
Attendez, votre arrière-grand-père était donc un bandit?
On peut dire ça, mais il n'avait pas trop le choix à l'époque. Il y avait une grande pauvreté dans les ports et barrios, les quartiers. On trouve aussi bien des descendants d'esclaves, des anciens paysans marginalisés par la seconde révolution industrielle, et un grand nombre de travailleurs immigrés européens, qui viennent d'Espagne, d'Italie, de France, d'Allemagne, comme mes ancêtres. Tous venus tenter leur chance dans ce nouvel Eldorado argentin.
C'est donc un art urbain, populaire.
Oui. Et tu sais que le tango avait même son propre langage, le lunfardo, l'argot des truands. Et même si dès son origine, une musique et une danse de couple, eh bien c'était curieusement dansé. D'abord, entre hommes. Puis ils vont danser dans les maisons closes avec les prostituées venues aussi d'Italie, d'Espagne, de France. D'où la réputation sulfureuse du tango dans les premiers temps. Et bon, pour la petite anecdote, c'est avec une prostituée que mon arrière-grand-père a trouvé l'amour.
Quel héritage! Il faut dire aussi que le tango se développe autour de la région du Rio de Plata et s'épanouit en même temps en Uruguay.
Oui, et la milonga, qui vient de la pampa argentine, une musique populaire venue des paysans solitaires.
Et c'est l'une des trois formes dansées ou chantées qui constituent le tango. Tango, valse et milonga.
Mais en même temps, la milonga désigne l'endroit organisé socialement où on danse le tango, voire l'événement lui-même, la soirée où on vient danser.
Et que racontent ces chansons? Des amours déçus?
Mais aussi les réalités sociales, souvent graves ou sarcastiques.
Une pensée triste qui se danse.
Oui, mais le tango reste une danse de la fête qui se construit autour de cette base rythmique simple.
Mais il a évolué à travers le temps. Il s'est construit autour d'une solide base instrument comme la contrebasse.
Le piano.
Le violon.
Et le roi bandoneon. J'ai longtemps pensé qu'il s'agissait d'un simple accordéon, mais ce sont en réalité deux instruments différents. L'instrument remplaça la flûte qui faisait partie à l'origine des orchestres de tango. Ce grand mélange a formé ce qui a été appelé une orchestra típica.
Attendez, le tango milonga, le tango romanza et le tango canción. Ah,
félicitations! Le tango est un genre qui s'est divisé à mesure qu'il devenait plus populaire et s'adressait à un public plus large.
Ah, je connais ça! C'est super connu!
Ah bah ça, pour être connu, c'est Francisco Canaro et Gerardo Mato Rodriguez qui ont créé le tango des tangos, la comparsita, qui date de 1916.
Un peu la base quoi, j'ai dû l'entendre dans plein de films.
Les premiers chanteurs et musiciens de la vieille garde, comme on dit, ils ont composé jusque dans les années 1920 la base du tango, comme El Entrerriano de Rosendo Mendizabal, La Morocha d'Enrique Saborido ou encore El Choclo d'Angel Bicholto.
Intéressant, je ne connaissais pas du tout.
Ah oui, je suis étonné, vous devriez écouter ces morceaux. Je suis sûr que certains vous diront quelque chose.
Peut-être, mais c'est quand même vieux tout ça. J'avais par contre un disque d'Osvaldo Pugliese, un grand pianiste et compositeur.
Et tout à fait. C'est l'un des chefs d'orchestre les plus diffusés en Milan.
Mon Dieu, mais c'est ma chanson préférée.
Ah mais oui, attendez, je reconnais, c'est Carlos Gardel. Attendez, il s'agit de Mi Buenos Aires querido.
Quelle oreille, ce n'est même pas sa plus connue.
En Argentine, il a appelé El Francesito, le français.
Il serait né à Toulouse ou en Uruguay. Le débat reste ouvert.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Son œuvre est tellement grande, des centaines de disques enregistrés entre le début de sa carrière en 1912 et sa tragique mort dans un accident d'avion en 1935. Le tango fera sa renommée mondiale, mais ses débuts étaient dans les musiques créoles, avec José Arrasán.
C'est aussi marrant de penser que la carrière de Gardel a aussi pris place au cinéma. Son premier film date de 1916, pendant la période du cinéma muet, et ensuite, il a fait du cinéma parlant.
Le tango est le protagoniste de très nombreux films.
Mais ce tango s'est perdu. Après la mort de Gardel, le tango est en crise.
Il fallait réinventer le tango, proposer de nouvelles formes et danses.
Quelle musique entraînante!
Eh ben, mon grand-père le connaissait, en personne.
Mais non, Astor Piazzolla. Rien que ça.
Oui, ils ont travaillé ensemble sur quelques morceaux, lui au piano et Piazzolla à l'accordéon, évidemment. C'est un vrai génie, mais avec un sacré tempérament.
Ça s'entend dans le morceau. Piazzolla est quand même considéré comme le musicien le plus important de la seconde moitié du XXe siècle, pour la musique de tango.
Pourtant, si violemment critiqué par les puristes, il a permis au tango d'évoluer, de se renouveler, de survivre et d'obtenir une nouvelle reconnaissance internationale, comme l'avait fait Gardel en son temps par ses interprétations.
Et aujourd'hui alors?
Aujourd'hui, le tango a beaucoup évolué, mais il existe de nombreux groupes contemporains, comme Quarteto Cedrón.
Ça, c'est les années 60. Il y a aussi Richard Galliano, qui a beaucoup travaillé avec Nougaro dans les années 80.
C'est vrai.
Moi, j'aime beaucoup Gotham Project. Un groupe du début des années 2000 qui mélange l'électro et le tango.
Oui, ça montre à quel point le tango s'est diversifié jusqu'à se fondre dans de nouveaux genres. Je pense notamment au film Le Moulin Rouge de Buzz Lurman. Sur l'une des chansons, le titre c'est El Tango de Roxane, qui mixe rock et tango.
Ah, c'est génial ça! Et la danse de cette musique est tellement bien filmée! D'ailleurs, il y avait un vrai engouement pour la danse tango.
Je préfère voir ça en vrai, dans un quartier de Buenos Aires. Je t'y emmène.
Allez! Finalement, on a raconté l'histoire du tango.
Oui, à deux.
Comment danse le tango.
Merci beaucoup à Pauline et Michael pour cette performance. Et comme vous pouvez l'entendre, chers auditeurs, l'équipe de Semillas Latinas n'a pas fini de vous surprendre. Vous êtes toujours sur le 93.9 et tout de suite, on écoute Viva Jujuy de Chalchaleros, un groupe folk du nord-ouest de l'Argentine qui célèbre la beauté de sa région.
La 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 la